nos programmes.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 13 janvier 2023. Avec vous, Eric Manirakiza, voici d'abord le sommaire. Le ministre américain de la Justice nomme un procureur indépendant pour enquêter sur les documents confidentiels retrouvés dans un ancien bureau et dans la résidence privée de Joe Biden. Au Bénin, la Cour constitutionnelle confirme la majorité au Parlement du camp présidentiel. Au Mali, 14 soldats tués dans des combats avec Al-Qaïda qui revendiquent une double embuscade. En RDC, le M23 s'engage à poursuivre un retrait ordonné, affirme le médiateur Uhuru Kenyatta. Au Kenya, les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour le cerveau d'un attentat en 2019. Et en Tunisie, une femme d'une cellule terroriste est condamnée à de lourdes peines. Le Maroc va finalement prendre part au CHAN, championnat d'Afrique des nations de football en Algérie. Vous aurez plus de détails dans les sports de Yacouba Ouédraogo. Et Abidjan abrite la troisième conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique francophone les 17 et 18 janvier. Nous en parlerons dans la page économique, mais d'abord le journal. Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice, Merrick Garland, a nommé jeudi un procureur indépendant pour enquêter sur les documents confidentiels retrouvés dans un ancien bureau et dans la résidence privée de Joe Biden. Donald Trump et Joe Biden font tous les deux l'objet d'enquêtes pour leur gestion des archives de la Maison-Blanche et des dossiers aussi délicats que différents. Abdelrahman Dia.
J'ai signé un document nommant Robert Hur, procureur spécial, qui l'autorise à enquêter sur toute personne ou entité qui pourrait avoir violé la loi dans cette affaire, a dit Merrick Garland lors d'une courte allocution. Cette décision est dans l'intérêt public et était nécessaire en raison des circonstances extraordinaires, a-t-il ajouté. Pour lui, cette nomination rappelle au public l'attachement de son ministère à l'indépendance de la justice dans les affaires particulièrement sensibles et son engagement à prendre des décisions uniquement guidées par les faits et la loi. M. Hur est actuellement associé d'un cabinet d'avocats à Washington. Il était auparavant procureur fédéral dans le Maryland de 2018 à 2021. Il avait été nommé à ce poste par Donald Trump, l'ancien président. Plus tôt dans la matinée de jeudi, la Maison-Blanche a reconnu qu'un petit nombre de documents confidentiels datant de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden ont été retrouvés dans sa résidence privée à Wilmington. Le président des États-Unis a assuré coopérer pleinement avec la justice américaine lors d'un bref échange avec la presse. La police fédérale avait mené en août dernier une perquisition dans le club privé de l'ancien président Donald Trump en Floride.
Au Bénin, le camp du président Patrice Talon a remporté la majorité des sièges au Parlement, 81 des 109 sièges, a déclaré ce jeudi la Cour constitutionnelle du pays à l'issue d'un vote marquant le retour de l'opposition après 4 ans d'absence. Le parti d'opposition, le principal, les démocrates, a pour sa part obtenu 28 députés. Le taux de participation est de 37,79%. Seules les formations politiques obtenant plus de 10% des voix peuvent obtenir des sièges au Parlement selon un système proportionnel. 14 soldats maliens ont été tués, 11 blessés mardi lors d'affrontements avec les djihadistes dans le centre du pays, selon un nouveau bilan de l'armée ce jeudi. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda avec des chiffres différents. Les combats ont eu lieu entre Mopti et Ségou après plusieurs attaques menées contre l'armée avec des bombes artisanales. Les rebelles du M23 sont convenus de poursuivre le retrait ordonné du territoire conquis dans l'est de la RDC. Déclaration ce jeudi dont l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, médiateur dans ce conflit et représentant du groupe de 5 pays d'Afrique de l'Est, Yacouba Ouédraogo.
Comme gage de bonne volonté pour travailler à un règlement au Nord Kivu, les dirigeants du M23 sont convenus de poursuivre leur retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict, a souligné Uhuru Kenyatta dans son communiqué diffusé à l'issue d'une rencontre avec des responsables du M23 dans la ville côtière kenyane de Mombasa. Ils sont également convenus de continuer de respecter et coopérer avec la force régionale d'Afrique de l'Est qui a commencé à prendre le contrôle des zones dont le M23 vient de se retirer, a précisé M. Kenyatta. Ces retraits du M23 font suite aux décisions d'un sommet du 23 novembre à Luanda qui avait demandé un cessez-le-feu et le départ des rebelles des zones conquises depuis un an. Le M23 a repris les armes fin 2021 en accusant Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation de ses combattants. Sa résurgence a ravivé les tensions historiques entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir le M23 et de combattre avec lui. Kigali dément, accusant de son côté l'armée congolaise de collusion avec les FDLR implantés dans l'est de la RDC depuis le génocide de 1994 au Rwanda.
Les États-Unis ont annoncé ce jeudi offrir jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations menant à la capture d'un homme présenté comme le cerveau terroriste d'un attentat contre un hôtel au Kenya en 2019 qui avait fait au moins 21 morts, dont un Américain, Jean-Roger Bion.
Les États-Unis recherchent Mohamed Abdi Aden, qu'ils présentent comme un leader du groupe islamiste Shebab basé en Somalie, ayant mené plusieurs attaques sanglantes au Kenya voisin. Le Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, avait revendiqué l'attaque le 15 janvier 2019 de l'hôtel haut de gamme d'Otsi Ditu dans la capitale Nairobi au cours d'un siège qui avait duré une vingtaine d'heures. Au moins 21 personnes avaient été tuées, dont un citoyen américain et de nombreux autres blessés. En 2015, une attaque contre l'université Garissa dans l'est du Kenya avait fait 148 morts, presque tous des étudiants. Il s'agissait de l'attaque la plus sanglante dans l'histoire du Kenya, après celle de l'attentat mené par Al-Qaïda à l'ambassade des États-Unis à Nairobi en 1998 et qui avait fait 213 morts. Les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral somalien, soutenu par la communauté internationale. Ils sont considérés comme un groupe terroriste par Washington depuis 2008. En novembre, les États-Unis ont annoncé offrir jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations permettant d'identifier trois chefs islamistes radicaux Shebab en Somalie, Ahmed Dirye, Maad Karate et Djihad Mustafa.
La justice tunisienne a condamné 9 femmes à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison et sont poursuivies depuis 2016 pour la formation d'une cellule terroriste et la planification de l'assassinat d'un ministre, Rosine Mounedzer.
Deux membres de ce groupe de 10 personnes, composés uniquement de femmes, dont sa fondatrice, ont été condamnés à 25 ans de prison pour des actes terroristes par la chambre pénale au sein du tribunal de première instance à Tunis. Sept autres accusés ont écopé de peines allant de 3 à 14 ans de prison. Une autre a obtenu un non-lieu. Le tribunal a retenu contre les personnes condamnées l'accusation d'avoir planifié en 2016 un attentat contre le ministre de l'Intérieur de l'époque, Hedi Madoub. Parmi les femmes condamnées figure une voisine des parents du ministre, accusée d'avoir fourni des informations sur ses visites à sa famille. Les autorités affirment avoir réalisé ces dernières années des progrès significatifs dans la lutte contre les djihadistes. Mais c'est la première fois qu'un groupe formé seulement de femmes était impliqué dans des actes terroristes.
De récentes études révèlent que la cuisson au gaz est responsable d'environ 12% des cas d'asthme infantile aux États-Unis et en Europe. Ces résultats provisoires ont suscité un débat, d'autant que le gaz est encouragé notamment dans les pays en développement. Gabi Dorsil.
La première étude publiée dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health estime que 12,7% des cas d'asthme chez les enfants aux États-Unis peuvent être attribués au gaz de cuisine, alors même que l'on incite les pays en développement à utiliser cette énergie comme une alternative au charbon et au bois à la nocivité établie. L'utilisation d'une cuisinière à gaz, c'est à peu près comme si un fumeur vivait dans votre maison, a déclaré l'auteur principal Taylor Grunwald. Cette étude fait écho à une recherche australienne de 2018 qui attribuait 12,3% de l'asthme infantile à ses cuisinières. Des résultats semblables en Europe ont été dévoilés lundi par les associations CLASP, Respire et l'Alliance européenne pour la santé publique. Aux États-Unis, où environ 35% des cuisines fonctionnent au gaz, cette question fait l'objet d'un vif débat depuis plusieurs semaines. Certains, comme le lobby gazier américain AGA, ont balayé les résultats, les qualifiant de pur exercice mathématique de promotion d'une cause sans rien de nouveau sur le plan scientifique. Daniel Pope, professeur de santé publique à l'Université de Liverpool au Royaume-Uni, se dit, lui, extrêmement prudent. Le lien entre l'asthme et la pollution des cuisinières à gaz n'a pas encore été définitivement prouvé et des recherches supplémentaires sont nécessaires, estime-t-il.
Une force régionale ayant soutenu le gouvernement fédéral éthiopien contre les rebelles du Tigré s'est retirée d'une ville stratégique de cette région du nord de l'Éthiopie, conformément à l'accord de paix, a indiqué ce jeudi l'armée éthiopienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis ce jeudi de fournir tout le nécessaire aux soldats qui résistent aux assauts russes à Soledar et Bakhmout, deux villes de l'est du pays que la Russie tente de conquérir pour changer le cours de la guerre. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Nathalie Barge dans sa Minute Éco.
La Gambie a signé un accord avec Africa 50 pour inclure le pont de la Sénégambie dans le programme de recyclage d'actifs de la plateforme d'investissement dans les infrastructures. Le pont sera géré et exploité dans le cadre d'un partenariat public-privé. Africa 50 va faire appel à des investisseurs pour assurer l'entretien de l'infrastructure âgée de 4 ans et améliorer le système de paiement des péages. La troisième conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique francophone se déroulera les 17 et 18 janvier à Abidjan. Environ 200 professionnels vont échanger sur la stratégie des groupes hôteliers africains ou internationaux. Les intervenants mettront à profit leur expertise et expérience lors de ces journées de débat qui couvriront l'ensemble de la chaîne de valeur des opérations touristiques. Lors de panels et sessions de travail, ils plancheront notamment sur la structuration et le financement de nouveaux projets. Selon une étude de l'Institut Reuters sur les médias et la technologie, 80% des éditeurs de presse considèrent que les abonnements électroniques seront la principale source de revenus en 2023, devant l'affichage publicitaire en ligne à 58%. Selon l'étude, cela pourrait entraîner des coupes budgétaires dans les rédactions de format papier qui ne permettent pas le même volume d'affichage publicitaire que les médias en ligne. Cela pourrait aussi pousser la presse à proposer plus de contenu à la demande, estime le centre de recherche Reuters.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le CHAN débute ce vendredi en Algérie.
18 équipes se lancent dans la course à la succession du double tenant du titre, le Maroc. Le pays hôte, l'Algérie, fait figure de favori de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. En match d'ouverture ce soir, les Verts locaux font face à la Libye. Nous connaissons l'équipe algérienne et nous montrerons notre potentiel lors de ce derby nord-africain, a fait savoir le coach libyen Corentin Martins. En face, il y va de l'honneur national devant un public acquis à la cause des jeunes Fenech. 3 matchs nuls en phase de préparation ont suscité quelques préoccupations, mais le coach Majid Bouguera assure que cela n'empêchera pas l'Algérie de poursuivre son objectif au stade Nelson Mandela d'Alger. Le CHAN, réservé aux joueurs disputant les championnats nationaux, se tiendra du 13 janvier au 4 février prochain.
Et puis Yacouba, le Maroc va finalement participer à cette 7e édition du CHAN.
C'est un revirement. Hier jeudi, le Maroc avait annoncé l'annulation de sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains, selon le ministère des Affaires étrangères. Ce même département a affirmé ce vendredi que l'équipe nationale marocaine va finalement prendre part au championnat d'Afrique des Nations. Il n'a pas voulu dire si l'équipe marocaine embarquerait à bord d'un vol direct pour rejoindre l'Algérie. Jeudi, la fédération marocaine avait annoncé l'annulation de la participation de son équipe au CHAN, car l'autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc, transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine n'a pas été confirmée par l'Algérie. La CAF avait fait savoir le 22 décembre qu'une autorisation de principe avait été obtenue selon son communiqué.
Enfin, ici aux États-Unis, en NBA, LeBron James, toujours en tête des votes pour le All-Star Game.
La superstar des Los Angeles Lakers, près de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, reste en tête des votes des fans pour le All-Star Game. La compétition aura lieu le 19 février à Salt Lake City, dans le Utah. 3 semaines après l'ouverture du suffrage, King James est le plus plébiscité avec plus de 4 800 000 voix récoltées. Kevin Durant, prépondérant dans la résurrection des Brooklyn Nets, suit avec 4 500 000 voix, ce qui fait d'eux, pour l'heure, les capitaines de leurs conférences respectives, Ouest pour James et Est pour KD. Derrière les deux pointes, Gianni Antetokounmpo de Milwaukee et Stephen Curry des Golden State Warriors.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakidza, place au dossier du jour. Au Bénin, les deux partis de la majorité, l'Union progressiste pour le renouveau et le Bloc républicain, sont arrivés en tête, suivis par les démocrates, un parti de l'opposition. Ce sera la configuration de la prochaine assemblée à l'issue des résultats des législatives du dimanche 8 janvier 2023, confirmé ce jeudi par la Cour constitutionnelle du pays. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
La Commission électorale nationale autonome a pu fournir les résultats provisoires. Selon ces résultats, les deux partis de la majorité présidentielle s'en sortent avec 81 députés sur les 109 prévus, à raison de 53 pour l'Union progressiste pour le renouveau et 28 pour le Bloc républicain. Les démocrates, un parti de l'opposition, devient la troisième force politique du pays avec 28 députés. Les Béninois se réjouissent d'avoir désormais un parlement digne d'un pays démocratique qui se respecte.
Nous sommes heureux du résultat. Le résultat donné, le Parlement sera composé de l'opposition et de la mouvance. C'est tout ce que moi je voulais, peu importe leur nom. Je remercie le président de la République qui a permis la participation de l'opposition. J'appelle à l'opposition à respecter le verdict et à ne pas tirer sur la corde. 8 sièges, ce n'est pas peu, en toute sincérité.
Du côté de la société civile, on apprécie ces résultats qui ouvrent la voie de nouvelles perspectives sur la scène politique au Bénin.
Vu le caractère inclusif, vu la délibération équilibriste, tout est aligné, c'est un boulevard ouvert pour une aube nouvelle, parce que tous les regards sont tournés vers 26, qui porte tous les espoirs, en ce sens que ce sera la grande messe électorale, ce sera de l'inédit. Nous aurons toutes les élections qui se tiendront à la fois présidentielles, législatives et communales.
Pour le pasteur Michel Alokpo, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses, cette élection restera marquée dans le temps.
Je suis très heureux. Je veux saluer le vaillant peuple béninois qui s'est exprimé au cours de ces élections législatives, qui a démontré encore que le pouvoir appartient au peuple. Je veux saluer le courage et la détermination de l'ancien président Dr Yahya Boni, qui a permis à l'opposition de s'affirmer, de permettre à l'opposition de siéger au niveau de la 9e législature. Je salue le président de la République, Patrice Guillaume Athanase Talon, pour son esprit d'ouverture qui a permis que nous ayons aujourd'hui au sein de l'Assemblée une assemblée non monocolore, mais une assemblée plurielle.
Mais au lendemain de ces résultats, le président du parti Les Démocrates est monté au créneau pour dénoncer ces résultats qui ne représentent pas la vérité des urnes. Il en avait d'ailleurs donné le signal au soir des élections. Éric Rondeté.
Je voudrais noter avec une certaine gêne que l'espoir né à partir de l'acte de notre participation à cette élection, que nous attendions se manifester de façon nette, n'a pas comblé complètement nos attentes. Notre pays, nos compatriotes ont reconnu la nécessité de faire de notre parti le plus grand parti politique du Bénin. Je ne dis pas le plus grand parti de l'opposition. Je dis, et je répète, le plus grand parti politique du Bénin.
Mais pour l'analyste politique Agapite Maforikan, qui s'est exprimé sur une télévision locale, l'heure n'est plus aux tergiversations, mais à la collaboration pour faire rayonner le Bénin.
La démocratie, ce n'est pas une la confrontation. On peut ne pas être ensemble et avoir une vision commune. Et en France, même si, c'est dire que, oui, on peut évoluer. Il faudrait que nous évoluions et qu'on cesse de personnaliser l'affaire. Que le risque de remise en cause des acquis que certains ont exhibés pendant la campagne n'aura pas lieu.
Après cette proclamation provisoire, il revient à la Cour constitutionnelle de confirmer ou non les résultats de la CNA. Elle devra le faire d'ici 48 heures. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
L'année écoulée a vu une litanie de crises des droits humains à travers le monde, de l'Ukraine à la Chine, en passant par l'Afghanistan, indique Human Rights Watch dans son rapport annuel publié ce jeudi. Le correspondant de VOA à Londres, Henry Ridgewell, a tendu son micro à deux experts. Récit de Nathalie Barge.
Human Rights Watch affirme qu'à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la communauté internationale a le mérite d'avoir déclenché ce qu'elle appelle l'arsenal complet du système des droits humains, y compris une enquête de la Cour pénale internationale. Tirana Hassan, directrice par intérim de Human Rights Watch.
Nous avons vu des réponses immédiates de la communauté internationale pour se mobiliser autour des principaux soutiens aux droits humains, y compris l'établissement de mécanismes de justice internationale, la collecte de preuves pour les crimes de guerre.
L'ONG affirme que dans des villes comme Boutcha et Izoum, il y a des preuves que les soldats russes ont torturé, violé et exécuté des civils. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a documenté de nombreux meurtres de civils. Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
In some cases, Russian soldiers executed civilians.
Dans certains cas, des soldats russes ont exécuté des civils dans les lieux de détention de fortune. D'autres ont été sommairement exécutés sur la place après des contrôles de sécurité, chez eux, dans leur cour ou au pas de la porte.
Human Rights Watch parle aussi d'abus en Chine, notamment contre de nombreux musulmans dans la région du Xinjiang. Pékin dément ces accusations. Le rapport indique toutefois que le contrôle accru des actions de Pékin par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est encourageant. Tirana Hassan, directrice de Human Rights Watch.
Ce que nous avons vu pour la première fois depuis très longtemps, ce sont des fissures dans l'armure autoritaire.
En Iran, les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini se sont transformées en manifestations anti-gouvernementales. Human Rights Watch affirme que l'exécution d'au moins 4 manifestants devrait déclencher une réponse mondiale plus virulente.
Nous devons aller au-delà de la solidarité internationale envers les manifestants et nous assurer que les gouvernements du monde entier demandent des comptes aux responsables iraniens.
Le rapport cite l'augmentation des violations des droits humains en Birmanie, où selon les auteurs, le régime lance des assauts contre les populations qui s'opposent au coup d'État. En Éthiopie, Human Rights Watch estime que le récent processus de paix mené par l'Union africaine a abouti à une trêve fragile.
S'assurer par exemple que l'on rende des comptes pour les crimes flagrants qui ont eu lieu dans la région du Tigré sera essentiel pour que ce cessez-le-feu et cette trêve tiennent réellement.
D'autre part, le rapport de Human Rights Watch indique que le changement climatique a un impact croissant sur les droits humains dans le monde. Il souligne que les gouvernements ont l'obligation légale et morale de réglementer les industries telles que l'extraction des combustibles fossiles qui sont, selon l'ONG, incompatibles avec la protection des droits fondamentaux.
Les opérations de contrôle du trafic aérien reviennent à la normale ici aux États-Unis après que des milliers de vols ont été annulés ou retardés mercredi suite à une panne du système informatique de la FAA, l'Administration fédérale américaine de l'aviation. Cette situation a privé pendant plusieurs heures les pilotes, les compagnies aériennes et les aéroports d'information cruciales pour la sécurité. Patsy Widakuswara de la VOA fait le point. Récit de Timothée Donangmaï.
Des passagers frustrés ne cachaient pas leur colère après que plus de 9000 vols domestiques ont été annulés ou retardés mercredi, l'administration fédérale américaine de l'aviation ayant cloué au sol tous les avions commerciaux pendant 90 minutes. Tamara Williams est une voyageuse.
Ce qu'on m'a dit au téléphone, c'est que c'est une situation similaire au 11 septembre, avec l'arrêt complet des avions au sol.
Le président Biden a dit s'être entretenu tôt mercredi avec le secrétaire au transport Pete Buttigieg.
Les avions peuvent encore atterrir en toute sécurité, mais pas décoller pour le moment. Ils ne savent pas quelle en est la cause. Ils espèrent avoir dans quelques heures une bonne idée de ce qui l'a causé.
La cause en était une panne du système informatique de notification aérienne de la FAA, l'Administration fédérale américaine de l'aviation. Le système a été redémarré à 5 heures du matin, heure de l'Est, mercredi, mais à 7 heures, le problème n'était toujours pas résolu, a expliqué le secrétaire au transport Pete Buttigieg.
C'est à ce moment-là que la décision a été prise de procéder à un arrêt au sol jusqu'à ce que la FAA puisse s'assurer non seulement que les notifications aériennes s'affichent correctement, mais aussi qu'elles soient effectivement transmises aux avions. À 9 heures du matin, la FAA était satisfaite que tout fonctionnait correctement à cet égard. C'est ce qui a permis de lever l'arrêt au sol et d'autoriser les vols.
Les notifications aériennes ou NOTAM jouent un rôle crucial en ce sens qu'elles alertent les pilotes sur les conditions pouvant affecter la sécurité. Richard Lévy, pilote retraité, est analyste de l'aviation.
Une piste a-t-elle été fermée? Un système d'atterrissage a-t-il été fermé? Une fréquence a-t-elle été changée? Une personnalité VIP va-t-elle atterrir à l'aéroport et l'aéroport serait-il fermé pendant une heure?
Les responsables de l'aviation américaine assurent qu'il n'y a aucune preuve de cyberattaque. Mais du côté politique, les leaders démocrates et républicains s'inquiètent de la vétusté des systèmes de la FAA, en particulier à la lumière du chaos provoqué par les annulations massives de vols, notamment par Southwest Airlines pendant la période des vacances de fin d'année. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.
Tous les 5 ans, on procède à une révision de l'autorisation de la FAA et cela arrive cette année. Nous nous félicitons donc de l'attention du Congrès pour s'assurer que la FAA dispose de ce dont elle a besoin pour résoudre ses problèmes.
On ignore pour l'heure combien l'immobilisation temporaire au sol des avions coûtera à l'industrie aérienne américaine. La compagnie Southwest Airlines a révélé pour sa part que l'annulation de 16 700 vols en période de congé pourrait lui coûter jusqu'à 825 millions de dollars.
This is the voice of America. Washington, Bamboozit.
La grève de près de 7000 infirmières de 2 des plus grands hôpitaux privés de New York a pris fin après 3 jours de protestation. À l'issue de longues négociations sur un nouveau contrat, les hôpitaux et les syndicats ont conclu un accord vers 3 heures ce jeudi matin. De New York, reportage de Ginny Niwa.
Pendant 3 jours, des centaines d'infirmiers sont venus protester devant leur lieu de travail, l'hôpital Mount Sinai, l'un des plus grands des États-Unis, exigeant des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Vêtus de rouge, la couleur de leur syndicat, la New York State Nurse Association, NYSNA, les grévistes crient « Sauvons des vies et non de l'argent », ainsi que de meilleures conditions avec plus d'infirmiers égale de meilleurs soins. Pour l'IMSIM infirmière au Mount Sinai, les conditions sont insoutenables.
Nous demandons des ratios qui sont raisonnables. En ce moment, nous travaillons et nous avons travaillé depuis plusieurs années dans les conditions où les ratios sont très extrêmes, comme une infirmière pour 4 patients, par exemple, dans le soins intensifs nouveau-né, ce qui vraiment n'est pas idéal.
Pendant la grève, le personnel a encerclé l'hôpital et sillonné la ville à pied ou en voiture. Tout au long de la journée, des petits groupes ont rejoint les grands, tandis que les klaxons des New-Yorkais retentissaient en signe de solidarité. Selon cette infirmière, Christine Orana, le ratio infirmier-patient n'a jamais été respecté, même lors du précédent contrat qui a expiré le mois dernier. Mais cette fois-ci, elles étaient déterminées à aller jusqu'au bout pour se faire entendre.
Des négociations sont en cours entre le syndicat et l'administration de l'hôpital depuis septembre. Et il n'y a pas eu d'accord conclu sur les questions les plus importantes qui sont la sûreté du personnel et les ratios infirmiers-patients. Cela fait longtemps que ça dure, ce qui est dangereux. Nous l'avons écrit dans notre précédent contrat qui a expiré et ça n'a jamais été respecté. C'est la question la plus importante sur laquelle nous voulons nous assurer d'être d'accord avant que notre contrat ne soit signé.
Les hôpitaux sont restés ouverts, employant des services d'infirmiers temporaires plus coûteux. Ils ont également transféré certains patients vers d'autres hôpitaux et reporté certaines procédures non urgentes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot a également assuré la mise en onde. Eric Manelakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute.